Ça a été un petit peu soudain, mais je pense que je suis en direct sur les ondes de Radio Larzac pour Showtime, votre émission sur le partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Du coup, je ziote un petit peu certaines choses. Normalement, je suis bon. S'il y a quelqu'un à l'antenne, ou du moins pas à l'antenne, de l'équipe qui m'entend. Hop, je mets le casque, c'est encore plus mieux. Je compte sur vous pour me dire si je suis bien, si tout marche bien. Et ceci étant dit, moi, j'ai pas plus à vous dire, hein. Générique. Excusez-moi, c'est pas tous les jours que l'on fait du direct hein, sur les ondes. Moi c'est un exercice qu'il me plaît. Mais en tout cas, je pense que je suis bon. Hein. Je crois qu'on vient de me le confirmer par SMS hein, pour vous dire que l'on est bien. On est bien en direct. Hein. Merci Neko d'être là. Donc oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Showtime, votre émission sur le partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, c'est une émission riche qui vous attend avec un programme qui vous attend avec notamment l'actu, quelques suggestions un petit peu spéciales hein, pour l'occasion, un avis sur Légende Pokémon Arceus et pour l'occasion Arceus ou Arceus, comment qu'on dit ? Arceus, parce que oui, pour l'occasion, je ne serai pas seul pour vous présenter, pour vous parler, vous présenter le dit jeu, et on terminera avec un petit focus sur la série Gundam. Mais ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc, Showtime saison 9, épisode 5, c'est parti! Le jeu des montages de niveau, Vincent, le jeu des montages de niveau. Bon, excusez-moi, hein, il va y avoir encore des petits couacs à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est un exercice assez particulier qu'est le direct. Ceci étant dit, j'en dis pas plus, passe à l'actu. L'actu du mois. Alors, ce mois-ci, dans l'actu, ben, il y a quand même beaucoup de choses, dont des news de dernière minute, dont je vous parlerai en fin de l'actu. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Scream 5, sobrement intitulé Scream, est sorti le 12 janvier 2022. Et comme ça a fait un petit carton au box-office, ben, il y a eu un feu vert pour un Scream 6. Ah là là! Qu'est-ce qui nous attend donc avec ce prochain Scream 6 ? J'ai pas encore vu le Scream 5, déjà le Scream 4, je crois qu'il a été bâché, mais moi il m'avait bien plu à l'époque. Je suis très très intéressé de voir ce qui peut venir à nous proposer. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que Disney Peluche, sans donner de marque à proprement parler, est en train de faire moult et moult séries autour de l'univers Star Wars. Il y a eu The Mandalorian, récemment le livre de Boba Fett, et prochainement il va y avoir Obi-Wan qui va sortir le 25 mai prochain. On y retrouvera donc, comment qu'il s'appelle, Evan McGregor dans le rôle de Obi-Wan Kenobi et Hayden Christensen dans celui du très cramé Dark Vador. Affaire à suivre donc pour cette série Disney Peluche. Pour continuer dans l'actu, Matrix 4, Resurrection. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que dans le monde du cinéma, des fois, il y a des sociétés qui coproduisent certains films. Ici, Village Roadshow Entertainment a coproduit également avec la Warner hein, le film Matrix Resurrection. Petit bémol, c'est que vis-à-vis du fait que le film soit sorti en salle et sur HBO Max aux US, il s'est un petit peu beaucoup rétamé. Le film de Lana Wachowski a engrangé un box-office de 153 millions contre un budget de 190 millions. Bon, on peut comprendre du coup que Village Roadshow Entertainment tire un petit peu la grimace. Et c'est pour ça qu'il y a un procès qui a été intenté contre la Warner par rapport à tout cela. Ça fait un petit peu penser à une histoire Marvel. Et on peut comprendre aussi qu'il se soit un petit peu rétamé, sans être trop grossier, la gueule, face à un certain Spider-Man No Way Home qui a quand même engrangé 1,7 milliard de dollars au box-office mondial. Bon, du coup, Sony, bah, en fait, c'est depuis Far From Home, hein, le précédent Spider-Man sorti en 2019, bah, Sony elle se sent un petit peu poussé des ailes et veut essayer de créer son univers cinématographique autour de l'araignée à proprement parler. Et c'est pour ça qu'ils ont annoncé un film Madame Web. Alors, Madame Web, dans les comics, pour vous expliquer, c'est une vieille aveugle qui peut lire la toile de vie de l'araignée, c'est-à-dire elle peut voir tout ce qui touche au personnage arachnéen d'un univers à l'autre, ou même entrevoir des futurs éventuels. Et Sony s'est dit en 2019, ah ben on va faire un film sur elle. Et les choses commencent à se préciser puisque ce serait Dakota Johnson, qu'on a pu voir dans les nuances de gris, qui va incarner le rôle de Madame Web. De là à penser qu'elle pourrait éventuellement incarner une sorte de mix entre Madame Web et Spider-Woman, il n'y a qu'un pas. Bon, d'ici là, pour ce qui est de Sony Pictures et de la franchise de Spider-Man, on va se focaliser sur le film Morbius avec Jared Leto qui est prévu pour une sortie le 30 mars 2022. Et on se demande ce que l'on peut venir à y voir. Hein. Surtout qu'il y a beaucoup de rumeurs autour d'un retour de Andrew Garfield après son retour sublimé lors du précédent film. Mais la grosse news du jour dont je tenais à vous présenter, c'est Buzz l'éclair. Buzz l'éclair qui a eu droit à une bande-annonce hein, courant de cette semaine. Et je vous laisse donc la découvrir.
Une année entière de travail pour 4 minutes de vol, à peine croyable.
C'est quand vous voulez, monsieur.
Je suis prêt. Allons voir si...
On a une violation du périmètre.
Merci. Journal de bord de Buzz l'éclair. Après une année complète coincée sur cette planète, l'heure est venue d'effectuer notre premier vol d'essai. On rentre à la maison.
Bonne chance, commandant.
On compte sur vous !
Bien reçu.
There's a star waiting in the sky.
Bonjour Buzz, je m'appelle Sox et je suis ton robot de compagnie.
Nous sommes poursuivis par un mastodonte. Sauvez-vous.
C'était absolument terrifiant, je regrette de t'avoir accompagné.
Buzz.
Let all the children begin.
Je peux émettre un son propice au sommeil. Tu as le choix entre nuit d'été, vagues de l'océan, chant des baleines.
Non, le bruit blanc, c'est très bien.
Parfait.
Bonne nuit, Sox.
Bonne nuit, Buzz.
C'était la bande-annonce, la toute dernière bande-annonce en date hein, du film Buzz l'éclair à venir, hein, prévu pour une sortie le 22 juin prochain. Vous pouvez y entendre, en VO. Chris Evans dans le rôle de Buzz l'éclair. Ici, on dirait que c'est Adrien Antoine, le comédien de doublage qui fait la voix de Thor dans les Marvel ou encore Superman dans les récents films du DCU, DC Extended Universe, l'univers cinématographique DC, ou encore Batman dans certains dessins animés et outre jeux vidéo. Mais oui, au final, moi, je me pose la question, Richard Darbois, où êtes-vous ? Richard Darbois, quand même, la voix historique de Buzz l'éclair. À moins qu'il finisse en tant que narrateur, un petit peu à la manière de Captain, du film Captain Herlock, oui, pourquoi pas, mais là, c'est un petit peu tristouné. Je vous en lis tout de même le maigre synopsis que j'ai pu trouver. Spin-off consacré à la jeune... J'ai du mal à écrire. Spin-off consacré à la jeunesse de Buzz l'éclair. L'histoire du légendaire Space Ranger qui a inspiré le jouet éponyme. Bon, c'est maigrichon, mais encore une fois, la bande-annonce est très jolie. Par rapport à un film Disney classique, elle est assez sombre quand même. Enfin, il y a une certaine noirceur, je trouve, dans l'image. À voir ce qu'il en sera à proprement parler avec le long métrage. J'ai l'impression qu'à certains moments, on peut y voir Zurg, sans certitude. Mais ça pourrait être très intéressant selon comment c'est amené scénaristiquement. Après, peut-être que Zurg, c'est le rôle secret de Taiki Waititi. Enfin, c'est un acteur-réalisateur qui a fait notamment les Thor Ragnarok et d'autres films. Mais ouais, peut-être que Zurg pourrait avoir une importance un peu plus que... Enfin, je pense que vous comprenez l'idée. Ceci étant dit, moi je vous donne rendez-vous à l'été 2022 pour vous en dire ce qu'il en est. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire, je vous propose de passer aux suggestions. Ah, il n'y avait pas de voix sur ce jingle-là. J'en ai tellement et j'en ai perdu tellement. Enfin, ce n'est pas grave, parce que ce mois-ci, dans les suggestions, je tenais à vous parler de certaines choses... Enfin, on va sortir du cadre cinéma et pop culture pour vous parler du livre « Et si vous étiez autiste » de Anne Cossé. Je n'ai pas personnellement encore eu le plaisir de lire, mais je tenais à vous en parler car nous avons justement eu la chance de rencontrer Anne Cossé lors de l'exposition de Culture Geek Millau au 11 rue de la Capelle. Elle a eu le plaisir de se déplacer et de venir nous rencontrer et nous la remercions justement parce qu'elle a eu cette démarche-là et elle nous a permis d'avoir eu des échanges très très intéressants autour justement de diverses thématiques. En soi, c'était très enrichissant et vraiment, je ne pouvais pas vous en parler. Et c'est un peu me permettre de vous partager son souhait de permettre aux autistes aspergeurs de se retrouver autour d'un café. Je vous renvoie donc à l'article du journal de Millau du 27 janvier 2022 qui présente bien mieux que moi tout cela. Donc, si vous êtes intrigué, intéressé par le sujet, n'hésitez pas à lire l'article et ou le livre et ou bien à la contacter. Surtout si vous êtes un café qui peut être ouvert à toute cette thématique et à permettre justement les rencontres qu'elle cherche à proposer. Ceci étant dit, moi j'ai pas plus à vous dire. Hein. Je vous renvoie encore à toutes ces choses-là. Et je ne... peut que vous conseiller de la contacter. Vraiment, c'est une personne très très intéressante et il y a beaucoup à mener sur notre commune millavoise et aux alentours, si ce n'est au peu que l'on vient à s'y intéresser, comme c'est le cas de l'émission que vous êtes en train d'écouter. We'll be right back. c'était Bête du Gévaudan de Powerwolf version orchestrale. Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Certaines personnes de Culture Geek Mio, quoi que ce soit, c'est quand qu'on se lance enfin pour faire une émission, le projet d'émission autour des mystères et légendes, etc. Ça fait un petit moment qu'on en parle, mais il faudrait peut-être se lancer un petit peu. C'était une musique un petit peu taclage. Ceci étant dit, si vous êtes un petit peu plus coquinou, hein, pour les suggestions de la Saint-Valentin, je vous recommande Sunstone Mercy tome 2 de Stjepan Cedjic. Oh, ce dessinateur, il est fantastique. C'est sorti le 12/01/2022 aux éditions Panini Comics. Et je vous en parle pas plus car je vous en ai déjà parlé par le passé, mais ça parle BDSM, mais ceci étant dit, je vous propose à ce qu'on passe à un avis tout en chaleur avec notre ami Enzo.
L'avis sur
Enzo, est-ce que tu nous entends ? Est-ce que ça marche ? Parle-moi. Non, ça ne marche pas. Là, vas-y.
Allô ?
Ouais, ça marche. Excusez-nous ce petit temps de latence, mais là, on est bon. Du coup, on est en direct, toujours sur les ondes de Radio Larzac, et on va parler de...
Pokémon Legend of Arceus.
Vas-y, je te laisse dire les choses, et peut-être que je rebondirai sur certaines choses.
Pokémon Legend of Arceus est un jeu sorti le 22 janvier 2022. Donc cette année, incroyable, waouh. Et si vous voulez, le principe de ce jeu, c'est il est complètement révolutionnaire pour la série Pokémon. C'est à la base, les jeux Pokémon, c'est du tour par tour, comme les vieux FF, c'est une formule qui n'avait jamais changé. Et pour ce jeu-là, Game Freak a décidé de faire le parti pris, de changer complètement le gameplay, et donc de se tourner vers quelque chose de complètement nouveau, plus proche d'un Monster Hunter dans l'idée. Car ce jeu-là, il faut le répéter, ce n'est pas un open world, c'est plutôt... plein de petites cartes ouvertes comme un Monster Hunter, dans lequel on va se déplacer, et voilà. Donc pour l'histoire du jeu, ça tient en deux lignes, hein. On est dans le présent, Arceus, qui est l'équivalent de Dieu dans Pokémon, nous fait venir, nous fait venir 400 ans dans le passé, dans une région qui s'appelle Isui et qui correspond à Sinnoh dans les jeux Pokémon récents. Je t'entends pas, Vince.
Ah, pardon. Du coup, là, je te coupe, mais là, tu parles de... Voyage dans le temps ?
Oui.
On va en parler un peu plus après, mais continue. Ouais.
Et du coup, quand on arrive dans cette région, le portable qui était avec notre personnage, parce que c'est bien connu, les jeunes aujourd'hui ont tous des portables avec eux, et bien en se téléportant dans le passé, le portable devient un portable divin, globalement. C'est un petit peu le principe du truc. Et notre but à nous, en arrivant, c'est qu'on va s'apercevoir que les Pokémon, qui sont les animaux présents dans le monde de Pokémon, les humains ne les connaissent pas vraiment. Il n'y a jamais eu d'encyclopédie, personne ne les connaît. Et du coup, nous, notre rôle, ça va être de créer la première encyclopédie Pokémon pour les intimes Pokédex, qui a été inventée par le prof Chen. Et du coup, ça crée un petit problème de chronologie, mais qui va être justifié plus tard.
Et du coup, je pose une question, mais le portable, il a une incidence sur le Pokédex ou pas du tout ?
Le portable, non, il n'a pas d'incidence sur le Pokédex. Ça permet surtout de trouver un moyen de donner aux joueurs la carte. Et par exemple d'avoir accès à des objets de n'importe où, ce genre de truc. C'est vraiment ouais, plus...
C'est un petit peu le... Ouais, je vois...
C'est le couteau suisse quoi qu'ils ont trouvé les développeurs pour faire ça.
Ok.
Bon, mais du coup, rentrons un peu plus dans le sujet. Bon, le scénario, je vous l'ai raconté, c'est ça tout le long du jeu. Avec Dieu, de temps en temps, donc Arceus, qui nous envoie un petit message sur par SMS et qui nous dit « STP, poteau, capture tous les pokés ». En gros, c'est ça qu'il nous dit. Et du coup, le principe, c'est que on va commencer à... En fait, il va y avoir des Pokémon barons, et c'est un aspect très important du jeu. Ces Pokémon-là, en fait, ils font peur. C'est... Comment dire ? À l'époque, dans les jeux Pokémon, on n'avait jamais peur des Pokémon parce qu'ils nous attaquaient directement jamais le personnage. Aujourd'hui, ils attaquent le personnage. C'est-à-dire qu'on peut tomber dans le coma et refaire à la base départ. C'est... Pas du die and retry parce que la difficulté n'est pas la même, mais si la difficulté était beaucoup plus difficile, ce serait le cas.
Et là, tu amènes une notion de peur. est-ce que toi, tu as vraiment eu peur face à ces Pokémon, ces adversaires-là?
Alors, comment t'expliquer? Quand tu sors de la première zone et que t'as un moustillon niveau 5-6 parce que t'as combattu 3 castorno juste avant, et que tu tombes sur un Ronflex niveau 50, tu fais « Ah !» et que le Ronflex niveau 50, il va venir t'attaquer, il va te faire écrasement. Donc à tout moment, il te roule dessus le truc, tu vois. Donc c'est dans ce sens-là que tu as peur. T'as une appréhension, tu te dis, pourvu que je vais pas tomber sur lui au détour d'un rocher, quoi.
Et on va en parler un petit peu plus. Là, tu amènes des aspects assez intéressants, notamment en citant certaines attaques. Mais on va en parler un petit peu plus. Je vais te laisser continuer et on y reviendra, je pense. Mais c'est au niveau des animations d'attaque. Par exemple, Ronflex, écrasement. Je suis curieux que tu m'expliques un petit peu comment ça se présente à l'écran, ce genre de choses. Mais on peut en parler un petit peu plus après.
Et bon, du coup, là, je voulais juste pas... Et du coup, pour étayer un peu le scénario, tous les jeux scénario, et celui-là ne fait pas exception à la règle, en termes de scénario, sont faits pour des enfants. Pokémon, c'est un jeu fait pour des enfants, et il se trouve que des adultes y jouent parce que simplement, ils ont grandi. Mais sinon, le jeu reste destiné pour des enfants. Et donc, il faut qu'il soit compris par des enfants. Mais les développeurs laissent quand même le souhait... de laisser avoir une histoire peut-être un peu plus mature ou d'expliquer des notions de base. Parce que, par exemple, dans le jeu, il y a deux clans. Le clan Diamant qui croit que le Dieu, en fait, a créé le temps. Et le clan Perle qui croit que Dieu a créé l'espace. Et du coup, en fait, on va presque avoir une notion de racisme dans le jeu. Avec certains personnages, très peu. Il n'y en a que deux qui sont réellement racistes. Et en fait, c'est juste une peur de l'autre qui se traduit. Mais donc, je trouve ça intéressant parce qu'à la fin du jeu, quand on arrive à régler en quelque sorte tous les problèmes, les personnages, enfin, s'adoucissent juste un peu en apprenant l'autre. Bon, c'est pas de la grande philosophie, c'est très basique. Mais je dis que pour un enfant de 7 ans, c'est intéressant de pouvoir placer pour lui dans sa tête une image sur un concept de racisme ou de xénophobie.
Mais outre tout cela... on parle de Pokémon à l'instant présent, mais bon, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une autre émission ensemble.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment la culture japonaise, notamment au niveau des mangas, des jeux vidéo ou quoi que ce soit, par rapport aux thématiques qui peuvent en être tirées, amenées. Et là, tu es en train de nous en faire l'exemple avec un jeu tout à fait récent et que tout le monde peut venir à mettre la main dessus, puisque c'est Pokémon, c'est du 3+, encore légende Arceus.
Arceus ou Arceus.
Enfin, je ne sais pas, il est peut-être à maxima 7+.
Ouais, 7+.
Mais il a quand même, enfin, ce sont quand même, là on parle de Pokémon, c'est quand même des thématiques profondes. Et il y a d'autres jeux ou autres qui amènent des choses tout aussi profondes.
Ah oui, tout à fait.
Avec une PEGI. La PEGI, si vous ne le savez pas, c'est la classification à partir de laquelle on est censé pouvoir tenir entre les mains un jeu et pouvoir y jouer. Hein. Si vous jouez à GTA 5 et que vous avez 12 ans et que vous jouez la mission de la sextape, c'est qu'il y a un petit souci.
Oui. Je peux être coupable. Je lui fais.
T'es un mauvais client, mais t'es un bon client quand même, parce que outre ça, tu as quand même une bonne connaissance de la Japanimation, de la culture japonaise pour nous présenter ces choses-là. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que faut arrêter de se dire que Pokémon, c'est pour les enfants.
Ben surtout que là, je vais en venir au prochain exemple du jeu, qui est Percupio, un personnage du jeu. Peux-tu mettre le petit spoiler alerte, s'il te plaît?
C'est la sirène de Silent Hill.
Du coup, Percupio, qui est-ce? C'est un personnage présent dans le jeu qui fait partie, qui fait partie en quelque sorte d'un clan, lui aussi, c'est le clan des marchands en quelque sorte. Ils voyagent un peu à travers toute la région et son passe-temps c'est de visiter les ruines. Parce que dans Pokémon, t'as toute une mythologie. Arceus, bon, je l'ai dit, c'est Dieu. Après, il y a des créatures qui ont créé le temps et l'espace, d'autres qui ont créé les continents. Et c'est basé sur des créatures de la Bible et tout ça. En fait, Pokémon, globalement, on prend tous les bouquins religieux, toutes les créatures un peu cool, on en fait devenir des légendaires, et c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est terrible. Mais du coup, pour...
Juste, je te coupe là, mais tu as d'autres exemples, par exemple ?
Ben, par exemple, Kyogre et Rayquaza et Groudon, qui sont des divinités météorologiques, en quelque sorte, ce sont des créatures judaïques, à la base. Je connais pas les noms, alors par contre, mais c'est le cas. Faudrait juste aller chercher sur internet, mais il y a il y a une vieille vidéo YouTube qui doit dater de 2013-2014. Je crois que c'était Didi Chandilouis qui avait fait toute la mythologie Pokémon sur 20 minutes. Bon, il manque les derniers légendaires, mais l'essentiel y est. Donc voilà. Et du coup, ce personnage-là, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que, en fait, nous, on est l'élu. Et on le sait qu'on est l'élu parce qu'on est le joueur. Mais lui aussi est persuadé d'être l'élu. Et en fait, il renvoie à quelque chose de nous. Très intéressant. Quand on était enfant, même peut-être adulte, des fois vous dites rêveur, ah, peut-être que j'aurai une grande destinée un jour, peut-être que je ferai ci, peut-être que je ferai ça, peut-être que je suis ça. Et c'est ce que se disent les enfants. Si un enfant veut devenir quelqu'un d'important ou autre, ou avoir quelque chose, c'est pour avoir une reconnaissance de quelque chose ou de quelqu'un. Et du coup, Percupio, c'est cet enfant-là dans le jeu. Et du coup, ce qu'il a fait... Et du coup, ça fait beaucoup de du coup, je vais arrêter de dire ça. Ce qu'il fait dans le jeu, c'est que ce personnage, en fait, vu qu'il se prend pour nous, il va nous manipuler. Et du coup, il va nous faire rassembler tous les éléments pour rencontrer Dieu et à la fin prendre notre place. Et du coup, bon, à la fin, vous en doutez très bien, Pokémon, hein, on lui met une grosse dérouillée, allez, au revoir, bisous et c'est fini. C'est comme ça que ça marche. Donc, retenez ça, les enfants, au moindre problème, baston. C'est faux, ne faites pas ça. Mais du coup, voilà. Donc c'est pour ça, ce personnage en soi, il renvoie à quelque chose de très intéressant parce qu'on a vraiment... C'est un enfant qui se croit la parole de Dieu, alors que pas du tout, par rapport à nous. Alors que nous, on le sait, du coup, on doit réagir par rapport à lui. Mais est-ce qu'on doit comment on doit se placer par rapport à lui? Parce que pour nous, c'est un gêneur. Mais d'un autre côté, on voit surtout que c'est quelqu'un qui est... emprunt à la folie. Donc, comment on doit se comporter? C'est ça que je trouve d'intéressant.
Il y a quand même, de par ce jeu, une sorte de dimension, enfin, outre, comme tu le dis, c'est accessible aux enfants, mais il y a quand même une dimension un petit peu philosophique, un petit peu méta par rapport à certaines... On en revient un petit peu à ce que je disais vis-à-vis de la Japanimation, ce genre de choses ou quoi que ce soit.
Tout à fait.
Y a des thématiques qui sont propres à tout un chacun.
Ben, tout à fait.
Selon comment on se sent.
Mais si tu veux, quand l'attaque des titans sera finie en anime, je viendrai avec plaisir avec toi pour en discuter et parler du devoir de mémoire qui fait partie de cet animé. Mais... là, ce qui est...
Mais tu viens parler de n'importe quel anime avec moi, ça sera avec plaisir.
Oh ben SNK, crois-moi qu'il y a des choses à dire, parce que c'est un anime qui a été, à l'époque, qui a subi des choses, enfin, j'en parlerai plus tard, on va pas spoiler ce que je vais dire plus tard, mais voilà. Mais du coup, en ce qui concerne, voilà, le scénario, je vais pas en dire plus, je vous conseille d'aller découvrir. Après, il faut avoir bien conscience que ce que je dis, c'est, je pousse l'interprétation loin. Le jeu nous invite pas à avoir cette interprétation-là. Je fais cette interprétation-là parce que je pense qu'il y, y avait matière à en faire une. Mais sinon, le jeu ne nous y invite pas particulièrement non plus. Après, du coup, là, je vais en venir au sujet qui fait grincer des dents.
Les graphismes ! Alors... Émilie, si tu es là, envoie un message sur le Discord ou quoi que ce soit.
Nous avons une pensée pour toi.
On parle un petit peu en privé ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de personnes, hein, notamment outre Émilie, qui se sont posé des questions sur l'aspect graphique de ce jeu. Et on a eu la question Culture Geek que les graphismes ne font pas un jeu. La réponse maintenant.
Alors, les graphismes ne font pas un jeu. Parce que sinon, Minecraft aurait jamais été le jeu le plus vendu du monde. Je tiens juste à dire ça comme ça, Minecraft c'est dégueulasse. Ça aurait jamais été le jeu le plus vendu du monde si on se basait que sur des graphismes. Voilà, petit coup de gueule. Bon, pour en revenir à Pokémon. Le truc avec Pokémon, si vous voulez, c'est que... en fait... Déjà, il faut remettre les choses un peu dans leur contexte. Un jeu qui a été développé en 2 ans. Sur les textures, il y avait 3 personnes. Il y avait 3 développeurs. Donc déjà, c'est une prouesse. Et le comparer à un Breath of the Wild qui a été développé en 5 ans, non, on peut pas faire ça. C'est pas légitime. Enfin, il faut comparer ce qui est comparable. Il faut comparer un jeu qui a eu 7 ans de développement à 6 ou 7 ans ou 8. Mais on peut pas comparer 2 et 4, 5, quoi. C'est pas possible. Et du coup, dans ce jeu... Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que, en fait, les Pokémon sont des réussites absolues. Les sprites et les animations sont assez incroyables. En fait, ils ont vraiment réussi à leur donner vie. Ce qui avant n'existait pas dans Pokémon. Hein. Limite, je dirais que les Pokémon les plus vivants étaient presque dans Noir 2 et Blanc 2. C'est pour dire, après il y avait X et Y, mais X et Y c'est pareil, je trouvais que c'était plus impersonnel. Mais bon. Et du coup, la seule chose qu'on peut reprocher à ces Pokémon, c'est que en fait, ben, en jeu, à l'extérieur ça va. Par contre, dès qu'on rentre dans une grotte, modèle 3D oblige, il y a des petits artefacts. Enfin, ça aurait pu être enlevé s'il y avait eu un peu plus de temps de développement. Mais du coup, les artefacts, pour ceux qui ne savent pas, c'est le détourage qui n'a pas été très bien fait à des endroits, et du coup il reste des pixels blancs qui tranchent quand le Pokémon bouge. Et du coup, c'est quelque chose de très minime. Le jeu, on y passe, allez, peut-être, je suis à une 30aine d'heures de jeu, je suis à la moitié du jeu, j'y ai peut-être passé 2 heures dedans, c'est pas dérangeant. En ce qui concerne les animations de combat, elles sont réussies, mais elles sont, je vais pas vous dire que par exemple, un Pokémon comme Cinnabras qui utilise lance-flamme, la flamme va sortir de sa bouche. Parce que ça, ce n'était pas possible. En fait, on ne peut pas faire pour chaque Pokémon vraiment redécaler l'attaque et redécaler les modèles 3D, c'est pas possible. Sinon, le jeu, il serait pas sorti aujourd'hui, enfin, il y a un mois. Il serait sorti dans 1 an ou 2. Du coup, voilà. Et après, par contre, ce jeu, c'est vraiment un régal parce que... Comment dire ? C'est un régal parce que les FPS, le nombre d'images secondes, il n'y a jamais de baisse. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment où le jeu, il y a une latence ou ça bug. Ça ne m'est jamais arrivé en 30 heures de jeu. Ça veut dire que c'est du 30 FPS constant. 30 images secondes, c'est très très fluide. Et c'est limite presque ce qu'il y a de plus important parce que les FPS, c'est le confort de jeu. N'importe qui vous dira, sur un PC gamer, jouer en 4K mais jouer avec 2 FPS, ça ne sert à rien. C'est injouable, on prend pas de plaisir. Jouer en 60 FPS et en 1080p, c'est déjà beaucoup plus agréable. Du coup, voilà, je crois que j'ai fini pour la partie graphisme. Je regarde vite fait mes notes.
Regarde. Et ça va être le mot de la fin.
Ouais, ben je crois que c'est tout. Et aussi, je voulais simplement rajouter que les transitions jour-nuit étaient très agréables. On avait vraiment l'impression...
Il y a des intempéries ou pas ?
Ouais, et beaucoup, et très variées. Ah. T'as 8 ans en tout dans le jeu.
Non, mais vraiment, il y a de la pluie.
Ah oui, il y a de la pluie, il y a des tempêtes, il y a de la brume. Ouais, non, vraiment, c'est sympa.
Et au final, par rapport aux personnes... Moi, un jeu vidéo, je vais être franc, un jeu vidéo, du moment que ça me raconte une bonne histoire, que ça a du gameplay, que ça... Enfin, voilà. Bon,
Vas-y.
Prenons l'exemple de Life is Strange, qui est un jeu français, Cocorico, qui n'est pas non plus fifou graphiquement, mais qui a une histoire poignante, mais... Enfin, je sais pas si tu as joué, si tu as joué,
non, mais je connais.
On en reparlera ou quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas avoir quelque chose d'intense au niveau de l'histoire, du gameplay, etc. Et par rapport au graphisme, certes, oui, les graphismes, ils sont bien, etc. Mais moi, je vais être franc, il y a des jeux où j'ai pris mon pied et les graphismes, c'était pas ça. Mais
oui. Mais du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que ce jeu, il est fait pour des enfants. Il a une histoire d'enfant. Si vous voulez pousser un peu plus loin l'analyse, vous pouvez, le jeu vous permet de le faire. En ce qui concerne le gameplay est excellent et révolutionnaire pour tous les jeux Pokémon. Franchement, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Je pense que Game Freak va continuer à faire ça dans le futur. Parce que de toute façon, c'est un jeu qui se vend extrêmement bien. Et les ventes prouvent que c'est un jeu quand même qui était attendu et qui a de l'intérêt. Et voilà, je pense que je n'ai pas grand-chose de plus à dire.
Bah, moi, ceci étant dit, moi, je te propose de passer à la musique que tu nous as choisie et que tu nous désamorceras par la suite.
Tout à fait.
Thank you. C'était une musique choisie par Enzo qui nous a très agréablement débriefé le jeu Légende Pokémon.
Voilà, c'est... Bon, j'espère que mon explication aura été quand même assez claire, même si c'est compliqué d'expliquer tous les aspects du jeu, de venir sur le gameplay, de tout expliquer en détail, parce qu'il y a un tas de choses qui ont changé par rapport aux anciens jeux, mais voilà. Merci Vince de m'avoir accueilli.
Mais c'est avec plaisir, hein. Moi j'espère avoir l'occasion de te retrouver très très prochainement pour d'autres émissions. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup à dire, parce que moi, je suis très fan de Japanimation. J'ai l'impression que c'est également le cas pour toi. Et si tu as, toi, tu veux venir, ou d'autres connaissances pour venir en parler, moi, ce sera avec grand plaisir que je viendrai à défendre. Mais la Japanimation, qui est un petit peu décriée sur certains aspects. Et justement... On s'apprête à parler de Japanimation pour le Focus.
Focus sur
Gundam. Gundam Battlefighters et Gundam Battlefighters Try. C'est une série d'animation japonaise diffusée respectivement pour Gundam Battlefighters entre octobre 2013 et mars 2014. Pour ce qui est de Gundam Battlefighters Try, ça a été entre octobre 2014 et mars 2015. Bon, je vous passe tout le staff japonais qui a travaillé dessus. Sachez juste que cette série est une énième déclinaison de l'univers créé initialement par Jochiyuki Tomeo et Hajime Yatate. Mais ça, j'y reviendrai. Allez, synopsis. Dans un futur proche, bien des années après 1980, alors que le Gunpla des modèles plastiques issus des séries issus des séries Mobile Suit Gundam, on crée un gros engouement. Hein, maintenant, il y a quelque chose qui crée un second boom autour de toute cette pratique et le Gunpla par le Gunpla Battle. Ça consiste au fait que les maquettes de Gunpla, de Gundam que l'on construit, grâce à un système, on peut les utiliser pour se combattre les uns les autres. Le personnage principal, c'est Yori. C'est un jeune constructeur de Gunpla qui aime beaucoup et qui aime... rêve et aimerait participer au tournoi mondial. Sauf que, le problème, c'est qu'il a certaines difficultés jusqu'à ce qu'il rencontre une personne dans le nom de Reiji qui va piloter pour lui et utiliser... grâce à des capacités quelque peu surhumaines, ces maquettes. C'est ainsi que Sei et Reiji vont faire front commun pour participer à des concours, à des tournois de Gunpla Battle, des combats de maquettes Gundam. Bon, ça paraît un petit peu confus dit comme ça, mais il ne paraît pas Gundam, c'est vraiment un grand pan de la culture japonaise, de l'animation japonaise, et j'en passe. En effet, même si ça fait deux saisons que c'est là, je suis un peu confus, alors que moi je voulais passer ça sur certains réseaux sociaux, mais Gundam, oui, c'est vraiment un grand pont de l'animation japonaise, etc. Et à l'occasion du 40e anniversaire de la franchise, et lors d'une interview avec Yoshikazu Yasuhiko, character designer des personnages d'origine de la saga Gundam et de d'autres personnages de la saga Gundam, dont Zeta Gundam. Après, c'est quelqu'un d'autre qui a passé la main. Mais actuellement, il travaille sur, il a eu travaillé sur le manga Gundam The Origins et a proposé des interviews auprès de certaines personnes. Parce que Gundam, c'est vraiment tout un univers. Et du coup, là, je m'apprête à vous lire certaines pages du magazine Atom numéro 12 qui parlait un petit peu de Gundam. Je vous cite. Au moment où Yoshikazu Yasuhiko s'attelle à ce récit au long cours qui est Mobile Suit Gundam The Origins, plus de deux décennies se sont écoulées depuis la diffusion du premier épisode de Mobile Suit Gundam en 1979, pour vous dire que ça date. Plus marquant encore, cela fait quelques années que les séries télévisées animées ont délaissé les chronologies originelles pour se tourner vers des univers alternatifs. Ainsi, Mobile Fighter G Gundam 1994 se déroule dans un univers Future Century. New Mobile Report Gundam Wing 1995 y substitue un After Colony. After Wars Gundam X 1996, un after-war des plus explicites, tandis que Turn A Gundam 1999 lui préfère encore un correct century. Bref, tous les moyens sont bons pour s'éloigner de cette Universal Century originelle auquel la série Mobile Suit Victory Gundam semble avoir apporté en 1994 une conclusion définitive. Tout juste peut-on encore savourer les quelques OAV Originated Animated Video du 8e MS Team à la tonalité résolument en décollage avec les récits habituels. Une page est tournée, il est donc temps de passer à autre chose. Ce sont quelques pages que je viens de vous lire, un petit bout d'article que je viens de vous lire du magazine Atom numéro 12, La Culture Manga. Je vois que le temps passe. J'aurais tellement à vous dire sur l'univers Gundam. Peut-être que je continuerai plus tard. Tout ce que je voulais vous dire, moi, c'est que l'univers Gundam, comme on en discutait avec Enzo tout à l'heure, outre le fait que ça s'est découvert en 2001 avec Gundam Wing, ça découvre quand même certaines valeurs que je m'apprête à vous lire le temps que je vous retrouve la phrase qui en est inspirée. Excusez-moi, le petit blanc, mais c'est juste que j'ai pas de marque-page. Ah, la voilà. Dans Mobile Suit Gundam The Origin, votre message semble se résumer à l'une des phrases que dit Amuro dans la dernière histoire courte du tome 24. J'aimerais bâtir une société où les êtres humains pourraient enfin se comprendre. N'est-ce pas là le cœur philosophique de la série ? Réponse : oui, c'est un message qui peut paraître utopiste, mais il est profondément sincère. Voilà, j'ai pas plus à vous en dire. Le temps défile et je tiens à ce que l'émission tienne dans son créneau. Donc je vous propose une musique. On va un petit peu déborder, mais je pense qu'il y aura encore beaucoup à vous dire. J'ai écrit beaucoup de choses sur Gundam aujourd'hui, en prévision de cette émission. Et je tiens vraiment à vous en faire partager parce que c'est une réelle passion, notamment le Gunpla. Et sachez qu'il y a des boutiques sur Mio qui vous proposent du Gunpla. J'en dis pas plus, je veux pas faire de pub parce que ce n'est pas le fer de lance de Radio Larzac ou quoi que ce soit. Mais bref, profitez d'une dernière musique avant que l'on puisse conclure en... Je sais pas plus que dire.
せない夢の先終われない未来だろ信じてみろ自分だけにできることを一つだけ掴むなら迷わずに選ぶだろ絆だけを掴み取るんだ本能変えられない生き方で変えていく未来だろ流されるな揺るぎのない願い掴め悔しさを知るのなら夢がまた見えるだろ縛られるな常識なんて挙動を苦しみから目をそらすな Fly away
C'était Just Fly Away de Edge of Light, le second opening de Gundam Bird Fighters Try. J'aurais eu encore beaucoup de choses à vous dire sur Gundam, j'avais vraiment préparé tout un truc, mais je pense que je vous en parlerai lors de la prochaine émission, parce que oui, cet épisode de Showtime touche à sa fin. Alors, pour bien dire les choses, merci encore à toutes les personnes qui m'écoutent. Merci à Enzo qui est venu nous parler de Pokémon Legends. Franchement, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de retour, ce genre d'autres voix hein, sur les ondes de Radio Larzac, notamment pour l'émission. Ça permet d'avoir justement un autre spectre justement par rapport à certaines choses auxquelles je ne peux pas spécialement jouer. Parce que bon, voilà, hein, les aléas de tout un chacun, hein, on peut pas avoir non plus tous les jeux de la vie, mais il a eu la chance d'y jouer, je trouvais que c'était intéressant qu'il en parle, notamment de par certains aspects, et notamment de par le côté graphique qui peut rebuter, mais outre ça, le côté historique peut justement intéresser. Après moi, bon, j'avais encore beaucoup à vous dire, mais je compte encore avoir beaucoup à vous dire hein, pour les prochaines émissions à venir. Je vous remercie auditeurs hein, pour être à l'écoute. Je remercie Radio Larzac pour continuer à donner sa chance au mainstream. Ceci étant dit, moi j'ai pas plus à vous dire. Il me tarde déjà la prochaine émission pour continuer à vous parler de Gundam, à vous parler de plein de choses. Je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous, une bonne Saint-Valentin et tout plein de bisous.